Bonsoir à tous. Gare au Delta qui pourrait faire repartir l'épidémie cet été. La menace est signée Olivier Véran parce qu'un tiers des nouvelles contaminations sont au variant indien. Le gouvernement espère une reprise de la vaccination. Plan de lutte mal défini, à l'impact limité. La Cour des comptes tacle l'action publique contre les algues vertes et plaide pour une agriculture à faible fuite de nitrates. Au sommaire également ce soir, aucun manquement professionnel dans le féminicide d'Hayange en mai. Un moratoire sur les exécutions fédérales aux États-Unis. Le jour le plus long sur le Tour de France, Van Der Poel, toujours en jaune. La nouvelle compilation des Too Many DJs. Et au téléphone Sinclair, nos assiettes.
Effectivement, on va parler de l'origine des produits alimentaires ce soir. On va se demander comment savoir d'où vient le beurre, la viande que nous consommons, que doivent indiquer les étiquettes. C'est pas forcément très clair et quand il s'agit de produits transformés, c'est encore plus compliqué. Alors si vous voulez tout savoir, et si vous avez les questions, 01 45 24 7000.
À tout à l'heure, 19h20.
France Inter.
Et si la prochaine vague déferlait dès cet été sur la France et non à la rentrée? C'est le ministre de la Santé lui-même qui met donc en garde. C'était cet après-midi dans un centre de vaccination des Hauts-de-Seine, centre installé dans un centre commercial de Villeneuve-la-Garenne.
La menace du variant Delta est une menace qui est réelle et qui pourrait venir gâcher nos vacances et gâcher l'été. Je lis parce que je lis parfois qu'il y aurait un risque de vague épidémique liée à ce variant très contagieux à la rentrée de septembre ou d'octobre. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous ayons le temps d'attendre jusqu'à septembre ou octobre. Je pense qu'il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été. C'est ce que nous avons vu en Angleterre, avec plus de 20 000 cas diagnostiqués par jour. C'est ce que nous voyons au Portugal. C'est un variant qui est très contagieux. Il représente près d'un tiers des cas positifs d'ores et déjà dans notre pays. Et il a augmenté en valeur absolue près de 75% en une semaine. Et nous devons nous mettre collectivement à l'abri en cas de reprise épidémique, de conséquences sanitaires qui seraient délétères, on le comprend bien, pour notre pays, à l'heure où nous retrouvons enfin une liberté collective qui nous a tant manqué depuis des mois et des mois.
Menace potentielle de reprise épidémique dès cet été, ce sont les mots d'Olivier Véran. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
La stratégie du gouvernement, Simon, c'est faire peur pour relancer la vaccination.
Oui, les ministres et les conseillers du gouvernement nous le disent depuis plusieurs jours. Il faut dramatiser, non pas que le risque de cette quatrième vague ne soit pas réel, on voit bien ce qu'il se passe ailleurs, au Royaume-Uni, au Portugal ou en Russie, mais ces dernières semaines, Emmanuel Macron avait choisi, c'est vrai, d'insister plutôt sur les bonnes nouvelles. Alors est-ce que c'est une explication parmi d'autres à ce ralentissement de la vaccination? Peut-être. En tout cas, l'exécutif a compris qu'il devait changer de ton pour éviter d'avoir à refermer le pays. C'est le sens de cette pression mise d'abord sur les soignants. En brandissant cette menace d'obligation, le gouvernement veut en fait les inciter à se faire vacciner dès maintenant. C'est le sens aussi de ces hypothèses mises sur la table par Jean Castex, l'extension du pass sanitaire ou la quarantaine obligatoire. Mais puisque le côté père fouettard n'est pas forcément le plus efficace, l'exécutif joue aussi la souplesse. Dès lundi, on pourra recevoir ses deux doses dans deux lieux différents si l'on part en vacances. On pourra aussi s'absenter quelques heures du travail pour se faire vacciner. Et puis surtout, le ministre de la Santé jure que le gouvernement ne contraindra pas tous les Français à se faire vacciner. Pas d'obligation généralisée donc, mais bien une incitation de plus en plus forte.
Et dans ce débat sur la vaccination obligatoire, encore merci Simon, l'avis de la Haute Autorité de Santé, elle estime qu'il faudra l'envisager aussi pour les plus de 12 ans. En Allemagne, le ministre de la Santé laisse entendre que les personnes vaccinées ne devraient plus être concernées par d'éventuels nouveaux confinements. Notre santé, encore celle des Bretons surtout, régulièrement confrontés aux algues vertes qui dégagent de l'hydrogène sulfuré. Plusieurs personnes décédées depuis les années 90. La Cour des comptes s'est penchée sur l'action des pouvoirs publics contre la prolifération de ces algues. On en avait eu quelques fuites en mai, sans dit dauphin. Le rapport final est au vitriol.
Les deux plans anti-algues vertes mis en place depuis 2010 par l'État et les collectivités locales dans 8 baies bretonnes ont eu un impact limité, dit ce rapport, avec des objectifs mal définis et des effets incertains sur la qualité de l'eau. Entre 2007 et 2020, il y a certes eu une légère tendance à la baisse des échouages d'algues vertes sur les sites sableux, mais ils augmentent dans les vasières, notamment dans le golfe du Morbihan. Le lien entre agriculture intensive et marée verte n'est plus à démontrer. Les nitrates, essentiellement d'origine agricole, se déversent dans les fleuves côtiers. Ils sont charriés jusqu'à l'océan où ils agissent comme des super fertilisants pour les algues vertes, potentiellement toxiques. D'après la Cour des comptes, il faut renforcer les actions pour une agriculture à faible fuite de nitrates, autrement dit changer les pratiques agricoles, mais le rapport déplore le manque de moyens des plans anti-algues vertes, 109 millions d'euros d'argent public dépensés, montant jugé très modeste au regard des aides de la politique agricole commune. En Bretagne, elle s'élève entre 435 et 614 millions d'euros chaque année.
Réformer la PAC, c'est d'ailleurs l'une des recommandations de la Cour des comptes pour en finir avec la prolifération des algues vertes.
Il faisait la une en début de semaine pour le record de chaleur qu'il a enregistré.
Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, au Canada, 250 km au nord-est de Vancouver, 49,6 degrés il y a quelques jours. Village parti en fumée à 90% hier. Un millier de personnes ont été évacuées. Loïc Piala, les incendies de forêt se propagent rapidement sur des sols très secs.
45 degrés dimanche, 48 lundi et 49,6 mardi, le village de Lytton, 200 km au nord-est de Vancouver, a battu des records de température au Canada pendant 3 jours d'affilée. Avec une conséquence presque inévitable, un incendie qui a ravagé depuis mercredi soir 90% des commerces et des habitations, sans épargner les infrastructures routières et ferroviaires. Le maire, qui se dit chanceux d'avoir survécu, raconte qu'il n'a fallu que 15 minutes aux flammes pour prendre d'assaut son village. Plus d'un millier de personnes ont dû évacuer. Le gouvernement fédéral a déjà promis de financer la reconstruction. Mais le feu, qui s'étend sur plus de 9000 hectares désormais, n'est pas unique dans une région où sévissent au moins une quinzaine d'autres incendies. Des milliers d'éclairs se sont abattus sur la zone à cause du dôme de chaleur qui fait suffoquer le nord-ouest du continent américain. À Vancouver, la plus grande ville de la région, 65 personnes seraient mortes de la chaleur depuis vendredi. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
De l'autre côté de la frontière, les États américains de Washington et de l'Oregon sont aussi écrasés par des températures très élevées. Il y a plusieurs centaines de victimes. Vague de chaleur aussi en Inde, la plus élevée depuis 2012, 43 degrés à New Delhi.
Aucun manquement professionnel.
C'est la conclusion de la mission d'inspection sur le féminicide de Hayange dans la nuit du 23 au 24 mai dernier. Une jeune femme de 22 ans tuée à coups de couteau en pleine rue par son compagnon. Le poste de police à côté était fermé à ce moment-là de la nuit. Son meurtrier était sous bracelet électronique pour des délits routiers, mais il avait arraché le soir du drame. Il n'y a pas eu d'alarme. Le rapport commandé par le ministère de la Justice souligne la nécessité absolue d'une meilleure coordination dans le traitement des violences familiales. Ils ont tué un homme qui menaçait les passagers avec un couteau. C'était mercredi, près de la gare d'Ermont-Aubonne, dans le Val d'Oise. Deux agents de la Sûreté ferroviaire sont ce soir dans le bureau du juge. L'annonce de la ministre des Armées, Florence Parly, intervient alors que la France s'apprête à réduire son dispositif dans la région. Nathalie Hernandez, plusieurs cadres du groupe État islamique au Grand Sahara ont été arrêtés ou tués par Barkhane ces dernières semaines.
C'est au cours de l'opération Solstice, menée du 8 au 19 juin dernier, que les soldats français, avec la force européenne Takuba et des militaires nigériens, ont fait prisonnier deux lieutenants de l'émir de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Connus sous leur alias de Katab al-Mauritani et d'Abu Dardar, ils ont été capturés dans la vaste zone du Liptako, entre le Niger et le Mali. Florence Parly a également annoncé la neutralisation de 6 autres djihadistes, dont le cadre Touareg de l'EIGS, Ikaraï, présenté comme le dirigeant d'un groupe de combattants dans la région de Menaka. Pour la ministre, c'est la démonstration que ces organisations terroristes continuent de perdre des chefs. Autre confirmation, celle de la mort d'Abdelhakim al-Sahraoui, une figure très médiatique de l'EIGS qui imposait une charia très stricte. La lutte contre le terrorisme va se poursuivre, assure Florence Parly, même si Barkhane va voir ses effectifs réduits. C'est une transformation, cela ne veut pas dire le départ de la France du Sahel, ni la fin de ses opérations.
Elle a été construite par les Américains pour leur allié afghan pendant la guerre froide, contrôlée par les Soviétiques après l'invasion de 79 et même par les talibans au milieu des années 90 avant de revenir dans le giron américain après le 11 septembre. La base aérienne de Bagram a été rendue à l'armée afghane aujourd'hui par les États-Unis. Nouvelle étape du retrait annoncé par Joe Biden en avril. Le porte-parole des talibans se réjouit du départ des troupes US et de l'OTAN. Les États-Unis qui imposent un moratoire sur les exécutions fédérales. Le secrétaire à la justice, Joe Biden, les juge arbitraires. Il estime qu'elles concernent beaucoup trop les personnes de couleur. Une décision qui marque un retour à la normalité, Loïc Loury, après le record d'exécutions sous Trump.
Il y a bientôt un an, le 14 juillet, à Terre Haute, dans l'Indiana, Daniel Lewis Lee, suprémaciste blanc, était exécuté par injection létale pour le meurtre en 1996 de toute une famille dans l'Arkansas. La première exécution fédérale depuis 17 ans et le début d'une longue série 13 personnes mises à mort avant le départ de Donald Trump de la Maison Blanche le 20 janvier. C'est trois fois plus que lors des six décennies précédentes. Aujourd'hui, c'est sans surprise que l'administration Biden remet le processus sur pause avec ce moratoire, le ministère de la Justice dénonçant le caractère raciste et arbitraire de la peine capitale et un nombre troublant d'exonérations après exécution, une façon d'effacer l'un des héritages de Donald Trump dans un pays où les peines capitales sont essentiellement gérées par les États et dans un contexte de ralentissement des exécutions à l'échelle du pays. En début d'année, la Virginie est même devenue le premier État du Sud à abolir la peine de mort, rejoignant ainsi une vingtaine d'autres territoires. New York, Loïc Loury, France Inter.
Transfert des droits individuels à la formation reporté au début de semaine prochaine. Le passage vers le compte personnel de formation devait initialement se faire avant mercredi soir, le 30 juin. Mais la plateforme de la Caisse des dépôts a eu un afflux de demandes hier, 1 million de connexions. Le gouvernement fait donc preuve de souplesse.
Le baptême d'un navire du futur ce matin à Marseille.
Il s'appelle l'Alfred Merlin et c'est le tout nouveau bateau du DRASM, le département des recherches archéologiques et subaquatiques et sous-marines. Bateau capable de traverser les océans qui va donc permettre aux chercheurs de naviguer sur l'ensemble des eaux françaises, 11 millions de kilomètres carrés, à bord des technologies de pointe pour explorer les épaves dans les grandes profondeurs. Visite avec Mathilde Vinceneux.
C'est dans les effluves de Champagne, après avoir brisé une bouteille, tradition oblige, que l'on s'avance sur le pont de l'Alfred Merlin, 46 mètres de long, la concrétisation d'un rêve pour Michel Lourd, ancien directeur du DRASM.
C'est le premier navire d'archéologie sous-marine qui est capable de se projeter très très loin au large. C'est celui qui va nous permettre de gagner l'outre-mer. C'est grosso modo mieux équipé aujourd'hui qu'un chalutier soviétique de la grande époque. On peut à peu près détecter tout ce qu'il y a sur le fond de la mer.
À l'arrière, il y a un treuil pour immerger des robots d'archéologie dans ce tout nouveau bijou nommé Arthur. Vincent Creuse a œuvré à sa conception.
C'est un robot qui va à 2500 mètres de profondeur. Il est équipé de caméras qui permettent de cartographier un site. Et ces griffes-là vont être capables de soulever un objet par le dessous sans l'écraser.
Les robots sont pilotés avec des manettes comme pour les jeux vidéo. Dans les profondeurs, les archéologues vont découvrir des épaves parfaitement conservées et les objets seront analysés à bord dans un laboratoire. Michel Lourd.
On traite ici et on décide si on va le remettre à l'eau après l'avoir analysé, étudié, photographié ou si on le garde parce qu'il pourra être conservé et à quel prix.
Première mission fin juillet en Méditerranée avec un nouveau robot humanoïde capable de reproduire sous l'eau la fluidité des gestes d'un archéologue. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
Et prix du bateau, 13,5 millions d'euros, plus 2 millions pour les équipements de haute technologie. Le Tour de France. Longue et animée, cette septième étape entre Vierzon et Le Creusot. Victoire du Slovène Moric. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Sébastien.
Et Van Der Poel a encore brillé.
Ah ouais, le néerlandais, hein, Mathieu Van Der Poel, toujours aussi surprenant. On assiste à un tour de folie et il y est pour beaucoup. Chaque soir, on lui prédit la perte du maillot jaune. Chaque après-midi, il vous scotche. Aujourd'hui, dans les côtes du Morvan, il n'a pas eu peur d'attaquer aux côtés de son rival de toujours, Wout Van Aert, et de 27 autres coureurs pour donc garder son maillot jaune et même accroître son avance. Le panache du petit-fils de Raymond Poulidor qui s'est écroulé une fois la ligne franchie, mais heureux.
On a roulé toute la journée à fond et bah, c'était très très dur. J'avais deux coureurs dans le premier groupe avec Asgreen et Van Aert qui étaient proches de moi dans le classement. Donc c'était eux deux que je savais que je devais un peu tenir à l'œil et je me suis encore battu une journée de plus en jaune.
Une journée de plus en jaune, Mathieu Van Der Poel, hein, qui demain portera en effet le maillot jaune pour une cinquième journée dans ce tour complètement fou dans lequel Franck Bonamour, premier tour à 26 ans pour le Français sous les couleurs de BNB Hotel, se régale. Autre grand acteur de l'échappée du jour.
Aujourd'hui, on s'attendait vraiment pas du tout à avoir une telle échappée, pas avec le maillot jaune, pas avec des coureurs comme Van Aert. Donc, ça fait plaisir d'être au contact de coureurs comme ça dans un final de course comme ça au bout de 250 km.
Le Français, lui aussi, jambes lourdes à l'arrivée et qui prend, Sébastien, la sixième place de l'étape.
Mais tout le monde n'était pas à la fête aujourd'hui, Fanny. Des favoris ont sans doute perdu le tour ce soir.
Oh oui, on pense à Primoz Roglic, un deuxième l'an passé, victime d'une grosse défaillance dans le signal du chon et qui est arrivé à plus de 7 minutes de Van Der Poel. Le poitrail grand ouvert, le visage tout blanc, complètement défait. Tadej Pogacar a lui laissé filer plus de 3 minutes à Van Der Poel et Van Aert, nouveau leader de la Jumbo-Visma, alors que la montagne débute demain. Mais cela, faut surtout pas le dire au coureur, rigole Benoît Costefroy, le coureur d'AG2R Citroën.
Là, sincèrement, j'ai juste envie de récupérer et pas forcément penser à demain, parce que là mes jambes autrement elles vont me dire c'est trop, mais non, je pense que ça va donner des idées à certains. Et je pense qu'on va avoir une belle étape.
Un chiffre à retenir, Sébastien, pour vous donner une idée de l'effort du jour. L'étape de 250 km s'est courue à plus de 45 km/h. C'est complètement fou. Le clin d'œil du jour, il est pour notre consultant Jean-François Bernard, ancien maillot jaune, qui a vibré cet après-midi.
Tour du Tour de France entre à l'instant à Châtillon-en-Bazois.
Châtillon-en-Bazois, sa ville, celle où a grandi son fils Julien, qui dispute son troisième Tour de France et qui a donc eu la chance de passer dans son village où il a été fêté, d'où l'émotion de son père Jean-François.
Nous, c'est comme d'habitude, hein. Où il y a de la fumée, c'est le barbecue, hein. C'est clair. Non, c'est une grosse émotion parce que moi, j'ai fait 9 Tours de France, je suis jamais passé devant chez moi. Comme j'ai dit à Julien hier, profites-en.
Et la famille en a bien profité aussi, c'est la fête dans le village de Jean-François Bernard, on leur souhaite une bonne soirée. Et nous, on file dès ce soir dans l'Ain, hein. Départ de la 8e étape demain à Oyonnax, direction les Alpes et le Grand Bornand.
Et ça commence à grimper, oui, demain sur 150 km. Merci Fanny Le Chevestrier, en direct du Creusot avec Lucien Lefebvre. Et vous saluez Jean-François Bernard. Je reconnais bien là son goût du barbecue. Les Bleus n'y sont plus, mais l'Euro continue. Début des quarts ce soir. Suisse-Espagne en ce moment. Ça se passe à Saint-Pétersbourg. On est quasi à l'heure de jeu et les Suisses, tombeurs des Français, sont menés 1-0. Et puis, à partir de 21h à Munich, Belgique, Italie, vous êtes sur place. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Sébastien.
Un match aux airs de finale, Jérôme.
Eh bien oui, parce que le vainqueur de ce soir sera un très très sérieux prétendant au titre. Les Belges font légèrement figure de favoris parce qu'ils sont réguliers dans leur performance depuis plusieurs années maintenant. On se souvient leur troisième place au dernier mondial. Ils ont sorti le Portugal, champion d'Europe en titre, au tour précédent. Sauf que pour l'instant, à moins de 2 heures du coup d'envoi, on ne sait toujours pas si leurs deux chefs d'orchestre, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, pourront jouer ce soir. Et ça serait une sacrée perte pour eux. Mais tout à l'heure, un certain supporter belge que j'ai croisé dans le centre-ville de Munich me confiait que c'était forcément l'année ou jamais pour les Diables Rouges, mais à condition de passer l'obstacle, il est de taille. L'Italie, invaincue depuis 31 matchs, record battu pour un sélectionneur italien, en l'occurrence Roberto Mancini. Le précédent record daté des années 30, 1930. Et maintenant, avec cette nouvelle génération de joueurs qu'on est en train de découvrir et quelques joueurs un peu plus expérimentés, l'Italie recommence à faire peur, à confirmer évidemment ce soir dans cette superbe enceinte de l'Allianz Arena de Munich qui va sonner un peu creux. La jauge est seulement de 20% de spectateurs.
Et ça commence à 21h. Merci Jérôme Val en direct de Munich. On termine à Gand en Belgique dans les studios des frères De Waal, Dave et Steph De Waal, plus connus sous les noms de Soulwax et de Too Many DJs, les remixeurs les plus demandés au monde. Ils ont retravaillé Daft Punk, Robbie Williams ou encore Gorillaz. Ils sortent une compilation, Foundations, et pour l'occasion, ils ont ouvert leur lieu de création à Mathieu Culeron.
C'est un bâtiment imposant, noir, rayé de blanc. À l'intérieur, c'est le paradis des ingénieurs du son, des synthétiseurs vintage à perte de vue. C'est Steph, la moitié de Too Many DJs, qui nous fait la visite.
C'est vraiment un bunker. Ici, ça c'est le control room, c'est le pièce ici, notre table de mix.
C'est une vieille table de mixage. Hein.
Oui, c'est un Kadak des années 70. C'est une pièce unique dans le moment.
C'est une pièce de musée ?
Oui, c'est une pièce de musée. Mais c'est hyper important aussi parce que je pense que le son de Dewey, toute la musique qu'on sort sur Dewey, est mixée ici par Dave et moi sur cette table. Tu veux enregistrer la batterie ou tu veux chanter au top de building ou dans le terrasse ou dans la cuisine, tu juste branches comme ça et on peut enregistrer.
C'est en créant ce lieu unique que les deux frères ont eu l'idée de monter leur label Dewey. Dave, entouré de vinyle, se souvient de l'épopée.
Dès que le bâtiment était fini, c'était Steph qui était venu avec l'idée de pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas un label pour faire tout dans le même building. Tout ce qui sort sur le label a été fait par nous avec des autres gens dans la même pièce.
Combien il y a de vinyles là ?
À peu près 50 000.
Foundations, double compilation du label Dewey. On y retrouve les productions maison, dont ce titre de Charlotte Adigerie.
Stand
Voilà pour cette visite de la caverne d'Ali Baba des Too Many DJs. Visite intégrale à retrouver demain, juste avant le journal de 7h. Je remercie les deux DJs aux manettes des journaux d'Inter cette semaine, Arnaud Caillet et Ludovic Asselot. Merci les gars.
Et merci, ou plutôt thank you, Mr. Power.
Oui, c'est ça.
Hein, pourquoi on parle en anglais là?
Parce qu'on va parler anglais un petit peu.
Parce que c'était le dernier et que vous partez aux États-Unis.
En septembre.
Voilà, vous allez être notre correspondant. Vous allez nous raconter les États-Unis.
Mmh, absolument.
De la chance.
Bah oui.
Une petite larme quand même pour le dernier 19h.
De l'émotion, ouais. Et puis de la fierté aussi d'avoir été dans ce fauteuil pendant 7 ans.
7 ans. 7 ans, ouais. Ça fait une paye, oui, effectivement.
Ouais.
Et ben bon.
Et vous serez avec Hélène Filly l'année prochaine et c'est un excellent choix.
C'est vrai qu'on sera entre de bonnes mains aussi. Mmh. Merci Sébastien.
Je vous en prie.
Et bon vent. Et
on vous suivra
depuis les États-Unis.